Le grand témoin.
Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les dimanches pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Et pour aujourd'hui, avec moi dans ce studio, Maître Jean-Claude Katende, il est avocat et président national de l'Association africaine des défenses de droits de l'homme, Azadon en sigle. Maître Jean-Claude Katende est celui que nous allons vous présenter aujourd'hui. Maître, bonjour.
Bonjour madame.
Et bon dimanche.
Merci.
C'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin. Et comme je l'ai dit, on va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment à travers toute la RDC et partout dans le monde grâce à notre site internet www.radiookapi.net. On va parler de votre passé, de votre enfance. On va parler de la situation des droits de l'homme en RDC. On va parler de votre parcours professionnel. Vous êtes avocat.
Ouais.
De formation.
Ouais.
Vous nous direz pourquoi vous vous êtes lancé dans la défense de droits de l'homme, qu'est-ce qui vous a motivé. Tout ça, c'est tout à l'heure dans notre émission, mais on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né où et quand ?
Je suis né à Likassi. À l'époque, la ville s'appelait encore Jadeville. Et vous savez que c'était la plus propre ville.
La plus belle ville, on disait même que c'était la plus belle ville.
Exactement.
Du Zaïre à l'époque.
Du Zaïre à l'époque. C'est dans cette ville-là où j'ai vu le jour, le 28 août 1967.
Et c'est là où vous avez grandi, vous avez passé votre enfance ?
Non, malheureusement, juste après ma naissance, je crois une année après, mon père avait décidé de rentrer au Kasaï oriental, qui est ma province d'origine. Et pour faire sa vie là-bas. Et donc, il avait demandé une retraite anticipée. Et c'est dans ces conditions-là que je me suis retrouvé avec mes parents à Mouenéditou.
Vous êtes rentré trop jeune, alors.
Trop jeune.
Dans votre province d'origine.
Oui, trop jeune. Et c'est là que j'ai commencé mes études primaires. Et quelques années après, j'étais encore obligé de rentrer à Likassi pour poursuivre mes études secondaires. L'université après.
Et donc, vous avez obtenu votre certificat d'école d'études primaires à Mouenéditou.
Exactement.
Puis vous êtes rentré à Lubumbashi.
À Likassi.
À Likassi, je voulais dire dans le Katanga.
Voilà. Je suis rentré à Likassi chez l'un de mes neveux parce que mon père avait estimé que à Mouenéditou, les conditions n'étaient pas bonnes pour me permettre de bien étudier. Et donc, aujourd'hui, quand je regarde la décision qu'il avait prise, j'estime qu'il avait raison, donc je suis rentré à Likassi.
Pourquoi pour ça veut dire qu'il y avait pas études. Il y avait pas de bonnes écoles à Mouenéditou?
Non, je pense qu'il y avait des bonnes écoles, mais quand on les compare aux écoles à l'époque à Likassi, je crois que Likassi avait des meilleures écoles par rapport à Mouenéditou. C'est pour ça que mon père avait estimé qu'il était important que je rentre à Likassi, la ville qu'il connaissait bien parce qu'il avait fait longtemps là-bas en tant que travailleur à la Gécamine. Et donc, je me suis retrouvé encore à Likassi en 82.
De Likassi, vous êtes allé à Lubumbashi. Là, vous avez obtenu votre diplôme d'État.
Oui, de Likassi. Donc, j'ai fait deux années de cycle d'orientation. La première année, CO. La deuxième année, CO. Et après, je me suis retrouvé à Lubumbashi, tout simplement parce que mon évêque chez qui j'habitais venait d'être licencié de son travail à la Gécamine et il n'avait plus d'endroit où résider à Likassi. Et comme il avait une maison à Lubumbashi, nous étions obligés de le suivre à Lubumbashi. Et c'est à Lubumbashi que j'ai continué mes études secondaires jusqu'à obtenir mon diplôme d'État.
Diplôme d'État en section commerciale.
En section commerciale et administrative.
Oui. Et à l'université, vous décidez de faire le droit?
Non, malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça. Disons que quand j'étais encore aux humanités, il y a quelqu'un qui était un modèle pour moi. À l'époque, c'était le professeur Kinzonzi. Vous savez que c'est lui qui est à la base du plan comptable congolais. Et donc, je voyais en lui un modèle, et je voulais être comme lui. Et donc, ma première décision, mon premier choix était de faire l'économie. Malheureusement...
Il n'y avait pas cette place?
Non, je m'étais fait inscrire. J'avais demandé une inscription en économie, mais mon nom n'était pas repris sur la liste définitive. Et vous savez qu'à l'époque, ce n'était pas facile de se faire inscrire à l'université. Et comme j'avais raté mon inscription, j'étais obligé d'aller à Kisangani pour faire l'Institut supérieur de commerce, l'ISC. Et là aussi, malheureusement, je n'étais pas inscrit. Je me suis retrouvé en première année dans les sciences administratives à l'université de Kisangani. Malheureusement, j'étais tombé malade et je devais rentrer encore à Lubumbashi. Et quand je suis revenu à Lubumbashi, j'ai postulé encore pour l'économie. Malheureusement, mon nom est sorti en droit.
En droit.
Et je me suis retrouvé...
perdu une année comme ça.
Oui. Sans étudier. Oui. Et je me suis retrouvé en droit.
Et vous avez pris goût quand vous avez commencé. C'était difficile au début parce que au départ, vous, c'était de faire l'économie.
Non, disons que j'étais en droit en entendant. Parce qu'on disait toujours, il faut, quand votre nom sort dans une faculté déterminée, vous continuez dans cette faculté-là et entre-temps, vous faites les démarches pour aller dans la faculté où vous souhaitez être. Malheureusement pour moi, jusqu'à la fin de l'année, je n'avais pas eu la chance d'être repris en sciences économiques en première année et je me suis retrouvé en deuxième gradué à droit et dès là, tout est parti.
Vous regrettez aujourd'hui d'avoir fait le droit ou...
Non, pas du tout. Je pense que le droit rencontrait ou rencontre encore aujourd'hui certaines de mes préoccupations parce que je suis quelqu'un qui a toujours été révolté contre les injustices. Et donc, en arrivant en droit, qui était en fait mon deuxième choix, parce que à l'époque, on vous demandait toujours de faire deux choix. Le premier, c'était les sciences économiques, et le deuxième choix, c'était le droit, mais je préférais bien faire les sciences économiques. Malheureusement, je me suis retrouvé en droit, et je pense qu'aujourd'hui, je suis contenu de ce que je fais, la contribution que j'apporte à l'amélioration des droits de l'homme dans mon pays, l'assistance que j'apporte aux petits citoyens, je pense que je suis satisfait de ce
vous
que je fais.
Vous êtes bien dans votre peau.
Tout à fait.
En dehors de cette licence en droit de l'Université de Lubumbashi, vous avez aussi un autre diplôme de gradué en théologie.
Tout à fait. J'ai fait aussi la théologie.
Ça, c'était après l'obtention de votre licence?
Oui, après. Je crois que je me suis engagé en théologie parce que j'ai toujours estimé que quand on veut faire certaines choses, il faut bien le faire. Et à l'époque, j'avais suffisamment de temps pour étudier. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller en théologie? Je suis un chrétien pratiquant. Bon, alors, pour bien connaître les choses, il faut aller faire la théologie. Et c'est comme ça que j'ai pris 3 ans pour faire la théologie et j'ai obtenu mon diplôme de gradué en théologie.
Vous avez également un diplôme en droit et santé de l'Université de Genève.
Tout à fait.
Quel est le souvenir que vous allez plus marquer pendant votre enfance, Maître Katende?
Le souvenir qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que un jour, les militaires sont venus chez nous, arrêter mon père, qui n'avait rien
Alou
vu.
Kassi,
non,
ou Amenedi Tou.
Et là, j'étais encore tout petit. Ils l'ont arrêté, ils l'ont amené au cachot, alors qu'ils n'avaient absolument rien fait. Et nous allions avec maman le voir, et je le trouvais dans une situation très... pour moi, lamentable. Et après, quand on a suivi l'affaire, on était obligé de le relâcher. Et ce fait m'a beaucoup marqué. Et c'est de là, en fait, que ma révolte contre les injustices a commencé. Et donc, c'est un souvenir qui a influencé
Vous avez gardé cette image jusqu'à ce que vous avez grandi.
Oui, de voir mon père pieds nus au cachot. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et le fait qu'il soit...
Vous aviez quel âge?
À l'époque, je crois que j'avais entre 10 et 12 ans.
Vous étiez déjà grand quand même.
Oui, mais c'est resté.
Et c'était ça le déclic
Ouais, et je m'étais dit, et donc on peut quand même arrêter quelqu'un, même s'il n'a rien fait, il se retrouve au cachot. Et après, on trouve qu'il n'a rien fait, on le relâche. Et il n'y a pas de dommages, en fait des réparations qui lui soient données. Pour moi, j'estimais que c'était quelque chose contre lequel il faut se battre.
Alors, je n'ose même pas vous demander ce que vous n'aimez pas dans la vie, c'est l'injustice. Hein.
Les injustices, ça je n'aime pas.
Ça, vous n'aimez
non,
pas.
Non, pas du tout.
Quel est votre plat préféré, Maître Jean-Claude Katende? Qu'est-ce que vous aimez manger?
Les foufous et les chenilles.
Sportif?
Oui, quand j'étais jeune, quand j'étais encore à l'école primaire.
Mais vous êtes encore jeune?
Oui, mais quand j'étais encore à l'école primaire, oui. Mais maintenant, je pense que je n'ai plus beaucoup de penchant pour les sports.
Alors, Maître Jean-Claude Katindi, vous êtes marié, père de 4 enfants.
4 enfants, 2 filles et 2 garçons.
Radio Capi, grand témoin.
Un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Maître Jean-Claude Katindi, avocat et président national de l'Association africaine des défenses de droits de l'homme, ASADO en sigle. Maître Jean-Claude, on va parler de votre parcours professionnel et donc après vos études à l'université de Lubumbashi, vous avez directement commencé à travailler dans un cabinet où vous avez chômé quelques temps avant de vous lancer dans la vie professionnelle.
Non, heureusement pour moi, je n'ai pas chômé. Juste après l'obtention de mon diplôme de licence en droit, j'ai été nommé, c'est pas mentionné dans le CV, mais j'ai été nommé magistrat en 1997 et je n'avais pas eu l'affectation parce que ce n'était pas du tout facile à l'époque. Et après, j'avais démissionné pour aller m'inscrire au barreau de Lubumbashi.
Et puis, vous vous êtes retrouvé à l'ASADO?
À l'ASADO, en fait, mon histoire avec l'ASADO a commencé un peu avant que je ne sois, en fait, devenu avocat. C'est en 1996 que j'avais pris mon adhésion à l'ASADO. Et depuis lors, je suis resté.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'ASADO? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller adhérer à l'ASADO?
En fait, j'avais un ami qui était frère à l'ancien président de l'ASADO, Johnny Moulomba. Et c'est lui qui me poussait toujours à y aller. Mais à l'époque, comme j'étais encore étudiant, je n'avais pas suffisamment de temps. Et après avoir obtenu mon diplôme, je m'étais dit, bon, mais pourquoi ne pas y aller? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec lui à l'ASADO en 1996.
ASADO Katanga.
ASADO Katanga, oui. Et je suis resté là-bas où j'ai fait mon grand parcours à l'ASADO, je l'ai fait au Katanga. D'abord, je suis arrivé en 1996 comme un membre simple. Je suis devenu directeur adjoint en charge des enquêtes et recherches. Après, j'ai assumé la responsabilité de président, mais à l'intérim. Et après, en 2003, si j'ai bonne souvenance, j'ai été élu comme président provincial de l'ASADO.
De l'ASADO Katanga.
Katanga.
Voilà, on va préciser ça. L'ASADO a été créé en quelle année?
L'ASADO a été créé en 1991.
Parce qu'on avait constaté qu'il y avait beaucoup d'abus sur les citoyens. Il n'y avait pas de respect des droits de l'homme que cette ONG a été créée.
Mais disons que les fondateurs de l'ASADO, qui étaient à l'époque encore des étudiants, ils étaient déjà engagés au niveau de l'université dans certains groupes de réflexion sur les droits de l'homme. Et donc, quand en 1990, le président Mobutu prenait la décision de démocratiser l'espace politique en République démocratique du Congo, quelques mois après, c'était en janvier 1991, ils ont décidé de créer l'ASADO pour répondre à certains besoins qui se posaient à l'époque. C'est notamment les violations de droits de l'homme qui étaient très importantes, mais aussi pour faire face à l'ignorance de la population sur ces droits. Et donc l'ASADO venait non seulement pour assurer la promotion des droits de l'homme, mais aussi la protection. Parce que à l'époque, encore aujourd'hui, on a toujours estimé que une personne qui est bien formée en droit de l'homme, cette formation lui accorde la première protection. Parce qu'il connaît la loi, il connaît ses droits, et il ne peut pas permettre à un agent de l'État, à un fonctionnaire de l'État, de lui faire n'importe quoi. Et donc, l'ASADO a été créé aussi pour lutter contre l'ignorance de droit de l'homme.
L'ignorance de droits de l'homme par la population.
Par la population, oui. Mais il ne faut pas penser que c'est seulement la population. Il y a aussi des agents de l'administration qui ne connaissent pas les droits de l'homme. Et donc, nous avons pour mandat de pouvoir faire
connaître ses droits.
Exactement, notamment en nous basant sur les lois de notre pays, la Constitution ainsi que les autres lois, mais aussi en nous référant aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Est-ce qu'on peut dire que les Congolais aujourd'hui connaissent leurs droits?
Bon, quand je compare la situation à l'époque où la SADO a été créée en 1991 à celle que nous avons aujourd'hui, je me dis de plus en plus qu'il y a des gens qui connaissent leurs droits. Mais, vous savez, le Congo...
C'est une poignée de personnes, quand même.
Oui, le Congo est grand. Il y a des milliers dans lesquels nous n'arrivons pas.
Pourquoi? Par manque de moyens?
Bon, il faut dire que la ZADO, c'est pas une grande organisation.
C'est quand même la première, si je ne me trompe pas, en RDC.
C'est l'une des premières organisations. Mais ce que je
voulais, des défenses des droits de l'homme.
Des défenses des droits de l'homme. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en termes de personnel, en termes de moyens logistiques, financiers, matériels, la ZADO n'a pas suffisamment de moyens pour être implantée dans toutes les villes, dans tous les villages. Mais nous avons déjà une circonscription dans laquelle nous sommes implantés, qui est très importante parce que nous sommes représentés au Katanga, au Kasaï oriental, à Kikwit, à Beni, en province orientale à Kisangani. Nous sommes à Beni, j'avais déjà dit, nous sommes aussi à Bukavu.
À Kinshasa aussi.
À Kinshasa, c'est là où nous avons notre siège national, avec des représentations presque dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Et dans les provinces où nous ne sommes pas représentés, nous avons des partenaires qui collaborent avec nous, qui nous donnent des informations pour assurer le suivi, n'est-ce pas, de cas de violation de droits de l'homme dans ces provinces-là.
Alors, Maître Jean-Claude Katindé, on a contacté quelqu'un qui nous a parlé de vous. On va le suivre et puis on se retrouve après. Allô, bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez vous présenter auprès des auditeurs de Radio Capi que nous suivons en ce moment?
Oui, c'est Maître Lumumba Ya Sylvain. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete et je travaille pour la Ligue des électeurs, une ONG de promotion et de défense des droits humains et de la promotion de la culture électorale en République démocratique du Congo en tant que secrétaire exécutif national. Pour ceux qui me connaissent dans les milieux universitaires, je suis assistant à l'Université de Kinshasa, à la faculté des droits et au département des droits international public.
Merci Maître Sylvain Lumumba. Nous sommes dans ce studio avec Maître Jean-Claude Katindé que vous connaissez très bien. Dites-nous comment vous vous êtes connu.
Maître Jean-Claude Katindé, c'est d'abord un grand avocat, un très honoré confrère. Je l'ai rencontré dans le mouvement de défense des droits humains en tant que responsable de la ZADO et défenseur des droits humains.
Parce que vous aussi, vous travaillez dans ce domaine.
Bien évidemment. La SADO et la Ligue des électeurs sont deux des trois ligues membres de la Fédération internationale des ligues des droits humains basée à Paris, ici en République démocratique du Congo. Et donc, vous comprenez bien que nous nous concertons régulièrement et sur des questions essentielles qui concerne la promotion et la défense des droits humains.
Et vous publiez ensemble des rapports sur les droits humains en RDC?
Oui, il y a eu des rapports conjoints, la FIDH, la Ligue des électeurs, la SADO et le groupe Lotus, qui est aussi une autre ligue membre basée à Kisangani, et donc notamment sur les chambres mixtes, sur l'accès à la justice et à la réparation en faveur des victimes des violences sexuelles, et même des prises de position communes sur des questions qui nous concernent. Et même par moments, nous sommes attaqués et ciblés ensemble par les pouvoirs publics, notamment lorsque nous prenons position en faveur des victimes des violations des droits humains.
Alors Maître Sylvain Lumumba, ça fait longtemps que vous connaissez Maître Jean-Claude Katindé. Il est quel genre de personne depuis que vous avez commencé à le fréquenter? Comment vous pouvez me décrire Maître Jean-Claude Katindé? Il est quel genre de personne?
Maître Jean-Claude Katindé, s'il faut le dire, je vais quand même prendre ce risque de parler de lui. c'est quelqu'un qui est d'abord très rigoureux, hein, et ça il faut l'admettre. Il est rigoureux non pas que à l'égard des autres, mais surtout aussi à l'égard de lui-même, et très réservé par rapport à, aux relations interpersonnelles, parce qu'il donne ce qu'il peut et il a la peur des déceptions et des trahisons.
C'est une personne qui n'est pas très ouverte, si je comprends bien.
Très ouverte, ça ne prend pas la place de quelqu'un réservé. C'est plutôt quelqu'un de réservé, de prudent. Voilà, de prudent.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas en lui ?
En même temps que ce que je viens de dire constitue un atout, dans une certaine mesure, pour ceux qui ne comprennent pas bien qu'il s'agit pour lui de se protéger, il trouve que cela constitue en même temps, pas un défaut, mais bon, il faut dire un élément qui fait en sorte que certaines personnes prennent aussi de la réserve, alors sans raison.
Mais vous, personnellement, vous trouvez que c'est une qualité ou un défaut ?
Moi, je crois que dans le travail que nous faisons au quotidien, cela constitue un atout.
Puisque vous considérez que la prudence, c'est un atout pour lui, pour se protéger, mais oui. Quel est son mauvais côté que vous aimeriez qu'il change ?
Ça veut dire justement que dans lorsque vous prenez cette prudence alliée à la rigueur qu'il a, nous sommes toujours entourés des personnes qui n'apprécient pas et du coup, ça devient comme l'autre côté de la médaille où ça peut être pris comme un défaut, quoi.
Alors, on va vous demander, avant de vous libérer, Maître oui. Sylvain Lumou, de lui désigner une chanson. C'est l'habitude dans cette émission. Alors, qu'est-ce que vous lui proposez comme chanson ces dimanches?
Je peux bien lui dédier la chanson de Félix Oazekwa, là où il parle avec Simaro Lutumba.
Adam Mounaeva, je crois.
Adam Mounaeva, voilà.
Merci beaucoup, Maître Sylvain Lumou. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission.
C'est moi qui vous remercie, madame. Ça n'a pas été un exercice facile. Hein?
Ouais, j'ai compris ça. Merci, au revoir.
Ok, merci.
Alors, Maître Jean-Claude Katendi, vous êtes une personne très rigoureuse, et même vis-à-vis de vous-même.
Tout à fait. Je dois dire que j'ai hérité ça de ma mère. Ma mère, elle était très rigoureuse avec moi, et je pense que cela m'a aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et je peux dire aussi qu'à l'époque, j'ai détesté beaucoup ma mère parce que je trouvais qu'elle était très rigoureuse. Elle ne me laissait pas le temps d'aller m'amuser avec mes amis. Mais aujourd'hui, quand je regarde avec recul, je dis qu'il me fallait une maman comme ça. Parce que la plupart de mes amis de l'époque sont tous dans la rue. Je peux dire que ce que je suis devenu, c'est grâce à elle.
Personne et... réservée aussi.
Bon, je ne partage pas ce que Maître Lumou venait de dire. En fait, je ne suis...
Réservé dans le sens d'être prudent, vous êtes prudent.
Oui, mais c'est contenu de l'expérience. Nous travaillons dans un environnement où vous ne pouvez pas savoir qui est qui. Et par rapport à la place stratégique que l'Azado occupe par rapport à nos prises de position. Vous savez que nous avons des collègues qui sont aujourd'hui avec nous, demain avec les autres Congolais qui sont au pouvoir. Et donc, il y a des personnes avec lesquelles vous tenez des réunions le jour, elles tiennent d'autres réunions la nuit. Et donc, vous ne pouvez pas savoir si les personnes qui sont autour de vous sont avec vous ou sont contre vous. Et vous le voyez, chaque fois qu'il y a des grands enjeux, il y a des collègues de la société civile qui se retrouvent soit du côté de l'opposition ou du côté de la majorité. Et moi, je pense que quand vous travaillez dans un environnement pareil...
Et l'Azado se retrouve de quel côté ?
Non, l'Azado, vous savez, c'est une question qui m'a toujours été posée. L'Azado se retrouve du côté de la loi. Et souvent... On dit que, pour ceux qui nous accusent, ils disent que l'Azado est proche de l'opposition.
Justement, vous travaillez pour l'opposition.
Non, pas du tout. Et moi, j'ai toujours dit qu'on me dise, par rapport à la position que l'Azado a prise, par rapport à telle question ou tel cas, est-ce que notre position est conforme aux lois de la République ou pas? Et je pense que ceux qui suivent bien l'histoire de l'Azado...
Mais dans la plupart des rapports que vous publiez, vous indexez beaucoup trop le pouvoir.
Mais c'est tout à fait normal, parce que le pouvoir, quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous n'avez pas l'obligation à l'égard du peuple. Quand vous accédez au pouvoir, vous ne pouvez plus vous conduire de n'importe quelle manière. Votre conduite doit être dictée par les lois de la République, parce que moi j'estime que quand on a un mandat public, on ne s'appartient plus. Donc on doit agir conformément aux lois. Et ça, nous estimons pour nous que c'est très important et c'est le travail, le rôle que nous devons jouer. Les jours où, par exemple, ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui prendraient le pouvoir, nous aurons toujours la même conduite, le même comportement. Et si vous prenez l'exemple lors des élections de 2011, quand l'opposition avait pris à poser des actes qui n'étaient pas conformes aux lois de la République, la ZADO n'a pas hésité une seule fois de les condamner.
Alors, Maître Jean-Claude Katendi, on va revenir sur la ZADO hein, tout à l'heure, c'est pas encore fini. Maître Lumu vous a dédié la chanson de Oisé, quoi. Vous aimez la musique
hein? Oui, j'aime la musique, mais pas la musique profane.
Alors, on va quand même vous faire plaisir, on va quand même vous proposer la chanson de Félix Oisé, quoi, que Maître Lumu vous a dédié quand même.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Vous n'allez pas boucher les oreilles.
Non, parce que c'est mon ami qui l'a demandé pour moi, donc...
Pour votre plaisir, en plus, on va écrire juste un extrait, puis on revient juste après dans ce studio pour la suite de notre émission.
Bisogno sotozali na memoria nzambe kasi na lolenge nini Nzambe osala koyeba na kobosana kasi biso bikela muna yo tuobosanaka mingi yango toye epai na yo boma biso na memoire na yo Nzambe Oto ayebi ko sambate, avoka sambila kaye Oyo ayebi ko lingate, ako benga nani Biso tuye paina yo me
Mei
Bondisa biso na bolingo na yo
Zambe
Oh, que ton royaume vienne Que ta volonté soit faite sur terre, Ligue Jésus-Christ. Ate akibisoto senga kayo, plus que jamais. To komi na pose a vous continuer.
Plus que jamais, to komi na pose a vous continuer.
Ana Israël, bafanda ki na boumbu, na mboka pharaon. Kasi yo posa na ki bangote. Yo tinda ki Moïse, Moïse a tuni yo sokiba, tuni yo nani a tindi, ozongi sa ki na Moïse te.
Oza linzambe a bayame, Isaac epe a Jacob.
Kole la ya bato, basale la yo posana kate, yango nzambe na kangama na yo. Oyo za nzambe Moza isi. Belina maboko ponini Yo simbi belina maboko ponini
Oba manzo to ya moto yo nzamba kela
Ata babu minzo to
Kasi molimo te
Na pesa ki morga mbote kasi yo zongi singa ye Esika bato baza Zambe merci nanga ikoto sayo Na memoire na yo Na ebe na zalini Eske na ndenge ya bien
Oh, bon,
Papa Lutumba, Simaro, poète. Nathalie Lamoko na biso na kuti ba livre te. Pona zo biyano na mituna na ngai, isengeli kaka na tuna mokolo. Pona nini zalaka mabe kutuna aji ya bwasi.
Félix wasi kwa ya solo, mozali mwana na bwanya. Mwana wa ya tuna ka, aliaka nyama ikila te. Oya ngima etinda, akufaka binza la te. Mwasi azali fololo. Mwasi azali mbe. Mwasi abanga kabalo banayi ukuli. Omoni soko tali mwasi kaka kumona ina mwabi kila kila mwana ruboku mwatala tala mwabwe tusa alingi azonga la tujuri elenge yano na mutuna na yo yango wana mwasi abanga kabalo banayi ukumi mwabange
uropona nini yukoma soki avion ikiti na aeroport ukumona batumazagi na kati babeti mwaboku sepeli ezala kapona kukumi za nzambe topona kukumi za pilote uwe kumbaki avion
Félix Fézali d'abord pona kukumi za nzambe uwe apesaki pilote à Kumbi Bisso, Bwanya ya Kumba.
J'espère que cette chanson de Félix Wazekwa et Simaro Lutumba a fait plaisir à tous les auditeurs de Radio Kapi qui nous suivent en ce moment, surtout les fans de Félix Wazekwa. À vous également, Maître Jean-Claude Katibé. J'espère qu'elle vous a fait plaisir.
J'ai suivi les paroles qui sont pertinentes.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Maître Jean-Claude Katende est celui que Grand Témoin vous présente aujourd'hui. Il est avocat et président national de l'AZADO, c'est l'association africaine de défense des droits de l'homme. On avait déjà commencé à parler de cette association. Vous étiez d'abord président de l'AZADO Katanga. Aujourd'hui, ouais. Vous êtes président national de cette association. Est-ce que c'est une tâche facile, hein?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est une tâche qui vous met dans une situation où vous êtes d'abord plus exposé et il vous faut beaucoup de courage, beaucoup de maîtrise de la situation de droits de l'homme dans le pays, mais beaucoup aussi de connexions. Et au niveau interne de l'organisation, vous avez des personnes qui ont aussi plusieurs ambitions, qui ont des comportements différents, et il faut mettre tout ça ensemble pour mobiliser tout le monde à faire le travail pour lequel la SADO a été créée. Et je pense que c'est pas un travail facile. Il faut ajouter aussi que vous avez des menaces régulièrement, des menaces
de mort,
des intimidations.
Vous en avez eu beaucoup.
Oui, vous savez, ça fait, si je prends des années que j'ai passées à la tête de la SADO Katanga, les années que je viens de passer à la tête de l'AZADO ici au niveau national, ça fait plus de 12 ans en tant que l'un des dirigeants de l'AZADO. Et donc, sur ces parcours, on a connu plusieurs problèmes. Comme
menaces, à un moment, vous avez été même désavoué par certains membres de l'AZADO parce que vous avez pris parti pour une personnalité politique congolaise.
Oui, vous savez, c'est pas toujours facile. Je pense qu'il y a... Il y a des événements à un moment donné qui vous demandent, quand vous voyez que tout le monde ne veut rien dire alors que les comportements... qui est posé et contre les lois, quand vous prenez position, c'est toujours possible que même au sein de votre propre organisation, que les gens estiment que c'est une position qu'il ne fallait pas prendre. C'est pour ça que je dis, il y a deux choses importantes quand on occupe la fonction que j'occupe. La première chose, c'est d'être courageux. La deuxième chose, c'est d'être quelqu'un qui n'est pas, qui se découvre qui se découragent difficilement. Et pour nous, dans ce contexte, l'espoir, de manière régulière, est toujours considéré comme la bouée de sauvetage pour quelqu'un qui est sur un bateau. Parce que à tout moment, vous avez des situations qui vous amènent à vous décourager facilement, tant au niveau interne qu'autour de vous. Parce que il y a plusieurs acteurs qui auraient souhaité que la ZADO adopte leur ligne de conduite, leur façon de voir. Mais nous, nous avons toujours estimé que la valeur de la ZADO, c'est d'abord son indépendance. Son indépendance et la qualité de son travail.
La ZADO est vraiment indépendante parce qu'on apprend qu'il y a des, il y a des politiciens qui vous financent pour publier tel ou tel autre rapport.
Non, nous n'avons jamais, depuis que moi je suis à la tête de la ZADO, jamais reçu des fonds d'un politicien pour la publication de nos rapports. Nous avons des financements qui nous viennent de nos partenaires internationaux et c'est avec cet argent que nous menons notre travail. Et même vis-à-vis de nos partenaires, nous sommes toujours indépendants.
Et c'est depuis quand que vous êtes président national de la ZADO? Ça fait combien
d'années? Depuis 2008.
Depuis 2008, ça va faire 6 ans?
6 ans.
6 ans maintenant. Vous ne travaillez pas seulement pour la promotion des droits de l'homme, mais vous êtes aussi, vous vous battez aussi pour la transparence des industries extractives.
Oui. En fait, c'est toujours dans le cadre de droits de l'homme. Nous avons compris que la corruption, l'opacité sont en fait un frein à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Quand le secteur des industries extractives, qui est le plus important et qui est mieux organisé aujourd'hui pour aider notre pays à aller de l'avant, n'est pas transparent, la conséquence est que l'argent qui est généré par ces secteurs ne va pas être investi dans les secteurs prioritaires, l'éducation, la santé. En fait, quand il y a l'argent qui est investi dans ces secteurs, c'est en fait aussi la promotion des droits de l'homme qu'on fait. C'est de la protection des droits de l'homme. On est en train de promouvoir les droits de l'homme. Mais quand cet argent est détourné par certaines personnes pour servir à des intérêts personnels, à des intérêts individuels, la conséquence est que les secteurs dont je venais de parler vont être des secteurs pauvres.
Et c'est ça qui vous a poussé à lancer la campagne « Publier ce que vous payez à la RDC ».
Oui, nous avons été à la base du lancement de cette campagne en République démocratique du Congo et nous avions toujours demandé que les entreprises pétrolières et minières publient les taxes, impôts, redevances qu'elles payent à l'État et que l'État publie toutes les recettes qu'il fait par les activités des entreprises. Cela nous permet de faire la comparaison, de rapprocher les chiffres pour voir est-ce qu'il y a des écarts. S'il y a des écarts entre les montants qui sont publiés par les uns et les autres, nous pouvons chercher à savoir ça va où. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces montants sont publiés dans un rapport qui est mis à la disposition du public. Donc, ça permet aux citoyens, mais aussi aux députés nationaux, de pouvoir demander des comptes à l'État, à ceux qui nous gouvernent, parce que nous, nous estimons que l'argent qui est généré par les secteurs miniers et pétroliers appartient à tous les Congolais, et donc ceux qui ont le mandat de les gérer doivent le faire dans la transparence et en rendant le compte au peuple qui les a élus.
Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, depuis le lancement de cette campagne?
Oh, nous avons obtenu beaucoup de résultats. D'abord, c'est la légitimation de notre travail en tant qu'acteur de la société civile. Aujourd'hui, nous pouvons parler des contrats miniers, nous pouvons parler de tout ce qui se passe dans les secteurs de ressources naturelles sans qu'on ne soit inquiété par qui que ce soit. Vous allez vous rappeler qu'il y a quelques années, quand on parlait seulement de la transparence ou de l'annulation de contrats miniers léonais, ça produisait comme conséquence que vous étiez inquiété par certaines personnes qui ne comprennent pas notre rôle, tout simplement parce qu'ils ont une certaine responsabilité au niveau de l'État. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que nous avons, par rapport à cette campagne, la protection de notre État, mais aussi un regard particulier de la communauté internationale sur le travail que nous faisons. Donc, il y a la sécurité des acteurs de la société civile. En dehors de ça, il y a le fait qu'aujourd'hui, l'ITIE de la République démocratique du Congo a déjà publié plus d'un rapport qui nous donne, en fait, des chiffres qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les secteurs miniers, combien d'argent notre État gagne, cet argent est investi où. Et ça, ce sont des rapports. Il y a quelques années, on ne pouvait même pas savoir ce que notre secteur minier produisait.
Et en passant, je vais se rappeler aussi que vous êtes membre du comité exécutif des l'ITIE en République démocratique du Congo.
Tout à fait.
Vous avez à votre actif plusieurs publications sur l'ITIE.
Oui, j'ai fait plusieurs publications par rapport à la République démocratique du Congo, mais aussi par rapport à ce qui se passe au niveau de l'ITIE, au niveau international. Où d'ailleurs j'occupe, je suis membre du conseil d'administration internationale de mise en œuvre de l'ITIE sur l'ensemble de tous les pays qui sont membres.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ITIE, c'est l'initiative de transparence des industries extractives.
Oui, qui en fait qui reprend, qui met ensemble la société civile, le gouvernement et les industries extractives pour essayer de mettre en œuvre les exigences de l'ITIE. Et à la fin, le pays va être déclaré, si ces exigences sont mises en œuvre de manière adéquate, satisfaisante, le pays sera déclaré pays conforme. Et c'est sur ce chemin-là que la République démocratique du Congo se trouve aujourd'hui. Et je crois que par rapport au travail qui est en train d'être fait, le dossier, la candidature de la République démocratique du Congo va être examinée à la prochaine réunion du conseil d'administration qui se tiendra au mois de juillet. Et à cette occasion, si la République démocratique du Congo ne satisfait pas aux exigences, elle va être tout simplement délistée, donc enlevée de la liste des pays mettant en œuvre. Et si nous satisfaisons, nous serons déclarés pays conformes.
Maître Jean-Claude Katendi, nous sommes à la fin de notre entretien. Mais avant de nous séparer, dites-nous comment se présente la situation des droits de l'homme en RDC?
Pas meilleure. Pas ce que j'aurais voulu qu'elle soit.
C'est-à-dire?
Parce que quand vous regardez à l'Est, il y a les Nations Unies qui viennent de publier un rapport sur la situation des violences sexuelles. La situation ne s'est pas du tout améliorée. Et quand vous regardez à l'ouest, l'espace politique s'est rétréci de plus en plus. Depuis les élections de 2011, vous n'avez plus vu des manifestations
pacifiques. Donc il y a beaucoup de choses à faire.
Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et nous aurions souhaité que ça aille mieux.
Alors je considère cela comme votre dernier mot ou vous avez quelque chose d'autre à ajouter?
Non, tout simplement remercier Radio Okapi de m'avoir donné cette occasion, mais aussi les multiples auditeurs, je crois, de la Radio Okapi qui sont très intéressés par la situation des droits de l'homme et aussi la politique parce que nous suivons tout ce que la Radio Okapi dissémine et nous pensons que c'est du bon travail.
Merci, Maître Jean-Claude Katendi. Je rappelle à tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment que c'était vous, notre grand témoin du jour. Vous êtes président national de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, Azadon Sigle. Vous êtes aussi membre du comité exécutif de l'ITIE de la République démocratique du Congo et du conseil d'administration internationale de l'ITIE. Merci à Héritier Sidia Kala qui était à la mise en onde au micro Kelly Nkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.